Je vais tout d'abord commencer par vous présenter la tribune. À ma gauche, Mink Takaoué, elle est professeure des écoles et représentante départementale de lutte ouvrière dans le département des Ardennes. À l'extrémité de la table, il est enseignant et porte-parole régional de Nathalie Arthaud en Champagne-Ardenne, Thomas Rose. Moi-même, Vincent Varlet, employé municipal à la ville de Reims. Et enfin, à mes côtés, Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de candidate de lutte ouvrière. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je laisse la parole à Thomas Rose.
Camarades, chers amis, ôter au patronat le pouvoir de ruiner une ville ou une région entière a toujours été une nécessité. Bien avant le début de la crise, nous l'affirmions et nous continuons à le dire aujourd'hui. La région Champagne-Ardenne illustre combien cette politique patronale peut faire de dégâts. Aujourd'hui, elle est en effet la seule région à perdre de la population. Non pas parce qu'on y ferait moins d'enfants, mais parce que la perspective d'y trouver un emploi est bien plus difficile qu'ailleurs. Alors, de nombreux travailleurs quittent la région et vont tenter leur chance sous d'autres cieux. Des villes comme Saint-Dizier ont vu leur population baisser de 25% en 25 ans. Et même celle qui apparaît comme la plus dynamique sur le plan économique, la ville de Reims, connaît une évolution négative. À cela, il n'y a rien d'étonnant, tant les fermetures d'entreprises et les plans de licenciement ont été nombreux, créant un chômage endémique qui s'est encore accentué avec la crise actuelle. Des départements entiers ont connu d'importantes pertes d'emplois et se sont enfoncés dans la pauvreté. C'est le cas des Ardennes, au point que certains, au MEDEF, ont proposé d'effacer Ardennes du nom de la région afin de donner à cette dernière une image plus positive. Le Tartuffe de Molière voulait seulement cacher un sein qu'il ne saurait voir. Les Tartuffes du patronat voudraient, eux, cacher tout un département. Dans cette situation, les collectivités locales, à l'image de l'État, ont ouvert toujours plus grand leur carnet de chèques pour aider soi-disant les entreprises à créer des emplois ou à les maintenir. À cet effet, ils ont mis sur pied des agences spécialisées. Ainsi a été créé Invest in Reims, cet organisme qui avait énoncé, à grand renfort de publicité, la venue d'un fabricant de lunettes en mars 2008 et la création de 70 emplois à Reims par le groupe Ansanders. On parlait même de 200. Seuls 22 emplois ont été créés et on a appris ces dernières semaines que l'entreprise allait être délocalisée. Les patrons empochent les aides publiques et font ce qu'ils veulent. Des profits pendant un certain temps, et lorsque ceux-ci ne leur paraissent plus suffisants, ils s'en vont comme si de rien n'était. Et toutes les autorités locales trouvent cela normal. Le directeur général d'Invest in Reims a même été jusqu'à féliciter le patron, Dan Sanders, qui aurait permis à 22 familles de vivre pendant quelques années. Rien n'a été dit sur les profits réalisés sur le dos des travailleurs. Profits qui devraient aujourd'hui leur revenir. Plus récemment, les travailleurs de Bozal, un sous-traitant automobile, se sont mis en grève et ont occupé leur usine. Ils protestaient contre les 93 licenciements prévus sur 150 salariés que compte l'usine. Là encore, il s'agit non de difficultés patronales, mais d'un transfert de l'activité en Allemagne. en fait, en Hongrie, par des accords de sous-traitance d'une grande partie de la production. Des attelages de remorques pourront ainsi être étiquetés « Made in Germany » comme auparavant, ils affichaient un « Made in France » tout aussi fallacieux. Ce groupe avait lui aussi reçu des aides des collectivités publiques pour étendre et pérenniser le site de production. Et si le président du conseil régional ou la maire de Reims sont venus apporter leur soutien aux travailleurs, il n'était pas question pour eux d'exiger le remboursement des aides versées afin de les redistribuer aux salariés. Au contraire, ils envisagent d'aider à nouveau un éventuel repreneur. Au terme d'une grève et d'un blocage des expéditions qui semblait poser problème aux deux constructeurs automobiles, Renault et PSA, la direction a finalement cédé. Aux indemnités conventionnelles sont venues s'ajouter une prime supralégale. Chaque salarié partira avec 25 000 euros net. Ce que les travailleurs ont obtenu était la moindre des choses. Mais face à de tels rapaces, qui détruisent des emplois, la nécessité d'interdire les licenciements et d'imposer un contrôle par les travailleurs sur la comptabilité des entreprises est plus que jamais d'actualité. Parmi ces rapaces, il y en a un qui s'en est sorti sans y laisser une seule plume. Il s'agit de la 100e fortune de France, responsable du plus important plan de licenciement de l'année dernière. Je veux parler du magnat de la presse Hersant. En novembre dernier, les travailleurs d'Aide de Print Comareg, éditant le journal Paru Vendu, ont appris la liquidation de leur groupe, qui a précipité vers le chômage 1650 salariés à travers le pays. L'annonce par mail de la liquidation et du licenciement de tous les salariés a été ressentie comme une marque de mépris supplémentaire. À Tinqueux, près de Reims, les 150 salariés du groupe se sont battus pendant 10 jours pour améliorer le plan dissocial. En 3 ans, il y a eu 3000 emplois qui ont ainsi été détruits dans le groupe Hebdoprint Comareg. Les travailleurs ont dénoncé la responsabilité de l'actionnaire Philippe Hersant, actionnaire principal, propriétaire par ailleurs de nombreux quotidiens régionaux ou de radios locales, et qui coule des jours heureux et paisibles en Suisse, loin du fisc. Il est révoltant que tous les profits faits grâce au travail des salariés et accumulés durant des années ne puissent servir à garantir les emplois. Ce patron d'un des plus grands groupes de presse doit verser les indemnités que réclament les travailleurs et leur garantir de véritables reclassements. C'est ce qu'ils sont venus encore dire et affirmer il y a quelques jours dans les rues de Paris avec des travailleurs d'autres entreprises concernées par des fermetures ou des licenciements. Et comme le disait l'un des salariés d'Hebdoprint, il serait normal et juste que Hersant soit jugé par ses propres salariés pour irresponsabilité sociale. Pendant que j'en suis à parler de Philippe Hersant, je tiens à remercier le journal L'Union, dont il est propriétaire, d'avoir omis dans ses colonnes d'informer aujourd'hui ses lecteurs de la tenue de ce meeting. Vu la ligne éditoriale de ce quotidien, cela n'a rien de particulièrement étonnant. Il y a aussi des patrons qui pensent faire dans le social, comme Caillot, qui dirige la principale entreprise de transport de la région, et qui était aussi accessoirement présidente du Stade de Reims, comme vous devez le savoir. Caillot a annoncé ces derniers jours sa décision de transférer l'activité garnissage et conditionnement des bocaux en verre, basée à Reims, pour la transférer en Auvergne, tout en affirmant qu'il n'y aurait pas de problème pour les salariés. Mais les salariés n'oublient pas, eux, qu'en 2005, lorsque Caillot avait repris cette activité dont voulait se séparer le groupe verrier Owens-Illinois, il y avait dans l'entreprise près de 120 salariés, essentiellement des femmes, occupées à cette tâche. 7 ans plus tard, il ne reste que 50 travailleurs en contrat à durée indéterminée. À qui Caillot propose aujourd'hui de suivre le déménagement ou d'improbables reclassements sur Reims. Quant à la cinquantaine d'intérimaires qui assuraient eux aussi la production, que vont-ils devenir ? 7 ans ? C'est aussi la durée sur laquelle courait le contrat entre Owens Illinois et Caillot pour le maintien de l'activité sur Reims. Caillot est parvenu à renouveler son partenariat avec Owens Illinois, qui entre-temps a fermé l'une de ses deux verreries de Reims. Ces deux coquins s'y entendent dans leurs politiques respectives de suppression des emplois. Alors oui, le président des Rouges et Blancs du Stade de Reims est loin, très loin, d'être le chevalier blanc en matière sociale qu'il prétend être. Le cas de Caillot illustre une politique qui, pour faire un maximum de profit, sous-traite à des PME une partie de la production. C'est notamment le cas dans les entreprises les plus riches de la région. Je veux bien entendu parler des maisons de champagne. Celles-ci ont progressivement confié à des sous-traitants tout ce qui ne constitue pas le cœur du métier, comme le gardiennage ou la logistique. Cela permet de payer des salaires 2 à 3 fois inférieurs dans des conditions de travail particulièrement difficiles. Et c'est là que l'on rencontre à nouveau Caillot, mais aussi Walbaum ou Chimanski, qui dans leurs entreprises de transport emploient des intérimaires pour des contrats de 2 à 3 heures. Il est aussi à relever que les deux ouvriers qui ont perdu la vie au travail hier à la sucrerie de Bazancourt appartenaient à une entreprise sous-traitante de nettoyage. Souvent, dans les entreprises, on confie les boulots les plus difficiles et les plus mal payés à des sous-traitants. L'enquête révélera peut-être le niveau des responsabilités, mais on peut tout de même s'interroger sur le fait de faire venir des salariés qui connaissent moins bien les installations et les risques que ceux qui y travaillent tous les jours. Je voudrais dire aussi quelques mots sur la situation des employés du CERNAM. À Reims, comme dans le reste du pays, les travailleurs sont en train de se mobiliser contre un plan de licenciement annoncé de 750 salariés sur les 1500 que compte l'entreprise. Tout cela dans le cadre de la reprise de l'activité par Geodis, filiale de la SNCF. Mais il faut remarquer et se souvenir qu'avant sa privatisation en 2005, le CERNAM appartenait à la SNCF. Aujourd'hui, après un tour dans les poches d'un fonds d'investissement privé, Butler Capital, connu pour ses plans de licenciement et sa recherche d'une rentabilité élevée au mépris de l'emploi, un nouveau mauvais coup s'annonce. Une manifestation devant le ministère des Transports est prévue demain par les salariés de la CERNAM. Et ils ont bien raison de vouloir se faire entendre. Alors, rien d'étonnant que dans ces conditions, le chômage progresse, que la misère s'accentue. Rien d'étonnant que dans les quartiers populaires de Reims, comme des autres villes de la région, le chômage dépasse les 20% et touche parfois près de 40% des jeunes, même lorsqu'ils sont bardés de diplômes. Que les boulots proposés soient des emplois précaires, comme chez Valeo, où les intérimaires représentent près de la moitié des effectifs de production. Dans cette situation de grande difficulté sociale, pour ne pas dire de désastre social, le gouvernement mène une politique ouvertement en faveur des plus riches. Il taille en pièces tout ce qui pourrait aider les classes populaires. Et dans cet exercice, 3 ministres issus de la Champagne-Ardenne réussissent fort bien. Ils se distinguent même. Il s'agit de Baroin, le ministre du Budget, qui, entre autres, attache son nom à la TVA dite sociale, qui, si elle est mise en place, verra les cotisations patronales baisser, alors que la TVA qui pèse sur la consommation augmentera. Il y a aussi le ministre de l'Éducation, Châtel, qui fait subir à l'éducation nationale une cure d'amaigrissement dont les effets sont désastreux dans les zones rurales et les quartiers populaires de la région, comme de tout le pays. Les enseignants et les parents ont d'ailleurs bien raison de s'y opposer. Et enfin, il nous faut citer aussi le secrétaire d'État au logement apparu, plein de suffisance. Il ne fait rien, strictement rien, alors qu'il manque des centaines de milliers de logements et que de véritables ghettos se constituent. Alors, si la bourgeoisie a les ministres qu'elle choisit et qui lui ressemblent, les travailleurs doivent avoir leur propre politique à imposer à tous ces gens-là. C'est là le sens de la candidature de Nathalie Arthaud et du programme qu'elle défend. Et je passe donc sans plus attendre la parole à notre camarade Nathalie Arthaud.